Ouais, bonjour à chacun, à chacune. C'est une joie d'être avec vous ce matin. Et comme vous pouvez le voir bientôt affiché sur l'écran, c'est une image qui n'est pas tout à fait de saison, hein, n'est-ce pas ? On est plus proche de la neige qui tombe et du froid que de l'été et d'un temps sur ce voilier. Pourtant, cet été, j'ai eu pour la première fois de ma vie l'occasion de faire et de monter sur un voilier. Ce n'est donc bien sûr pas moi qui le pilotais, qui naviguait avec, mais j'ai pu discuter avec cette personne à qui appartenait ce voilier. Et à un moment donné, lors d'une sortie, on a trouvé une espèce de crique dans laquelle on est rentré. Et puis, dans le but de pouvoir se poser là un petit peu et de pouvoir s'y baigner, d'aller observer avec les palmes, le masque et les tubas, les poissons. Et donc, j'observais le propriétaire de ce voilier. Et puis, à un moment donné, je vois qu'il s'apprête à jeter l'ancre. Et je lui dis, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre ce temps? C'est quelque chose qui prend une bonne dizaine de minutes, le temps de la descendre, et puis presque autant le temps de la remonter. Est-ce que ça vaut le coup de jeter l'ancre pour une vingtaine de minutes où on va rester dans cette crique juste pour se baigner? Et il m'a dit oui. Il a dit oui plus que jamais. Parce que même si on ne s'en rend pas compte, mais de laisser le voilier comme ça, sans l'ancrer, il y a des courants qui sont qu'on ne voit pas. Et petit à petit, le voilier se déporte, recule. Et à terme, dans le pire des cas, on peut faire naufrage, on peut aussi rentrer dans un autre bateau qui serait pas loin. Donc même pour 10 minutes de baignade, c'est important de jeter l'ancre. Le passage d'Hébreux qu'on va voir et sur lequel on va partager ce matin nous met en garde contre un danger, celui d'une dérive spirituelle. On a survolé jusqu'ici tout le chapitre 1 et l'auteur de cette lettre aux Hébreux fait en quelque sorte une pause. Il a exposé toute la grandeur de Jésus-Christ. Et quelque part, avant de poursuivre ce qu'il a à dire, il ne peut pas s'empêcher de s'arrêter. Il dit en quelque sorte, je ne peux pas continuer mon développement avant de vous donner un avertissement, un encouragement qui est directement lié à tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Je vous invite à lire ce passage ensemble. Hébreux chapitre 2, et on va prendre les quatre premiers versets. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit, distribués conformément à sa volonté. Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. L'auteur lance ici un appel urgent. On le voit au travers de cet impératif. C'est pas « ce serait chouette de s'attacher ». Non, nous devons nous attacher au message que nous avons entendu. Ce terme « attaché », c'est le même terme qui est utilisé pour parler de l'amarrage d'un navire à quai, pour parler d'un navire qui a planté, qui a jeté son ancre. Voilà l'appel que l'auteur adresse à ses lecteurs, un appel à jeter l'ancre. Où ça? dans les enseignements que nous avons reçus. Quels sont ces enseignements ? Il commence par « c'est pourquoi ». C'est pourquoi, ça veut dire « en conséquence ». En conséquence de tout ce qui a été dit jusqu'ici, dans le chapitre 1, où l'auteur s'est évertué à nous présenter celui qui est supérieur à tout, celui qui est la parole, celui qui est le dernier mot de Dieu, celui qui est le commencement et la fin de toute chose, celui qui est le rayonnement de la gloire de Dieu, celui qui a payé de sa vie pour nous purifier de nos péchés, celui qui est assis à la droite de Dieu parce que tout est accompli, celui qui règne et qui a toute autorité, celui qui est le Créateur et qui soutient toute sa création par sa parole puissante, celui qui est au-dessus des anges, Jésus-Christ. Il est notre salut. Il est cette bonne nouvelle. Il est celui en qui je suis appelé, en qui nous sommes appelés à ancrer notre vie. Et ce tableau somptueux, magnifique, sur la personne de Christ, du Fils de Dieu, de son œuvre, doit nous amener à saisir combien il est urgent de s'attacher à lui, de s'attacher à sa parole. Est-ce que vous savez à quel moment correspondent les plus grands réveils spirituels de notre monde ? À chaque fois que des personnes ont manifesté le désir d'un retour à la parole de Dieu, d'un retour à Christ, de revenir à ce que Dieu nous dit, de revenir à ce que Dieu nous enseigne dans sa parole, à s'attacher à la centralité de Christ et à la centralité de sa parole pour nos vies. Deux exemples pour illustrer cela. Cet exemple de Josias que l'on voit dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Vous savez, ce jeune garçon de 8 ans qui arrive, qui est nommé roi d'Israël et qui entreprend des travaux de restauration du temple. Et dans le courant de ces travaux, les personnes qui travaillent là tombent sur le livre de la loi et le lui amènent. Et quand il lit ce qui est écrit dans cette loi, il mesure en fait l'écart entre ce que le peuple de Dieu vit à ce moment-là et entre ce qui est écrit dans cette loi. Un autre exemple, c'est celui de la réforme protestante qui a eu lieu au XVIe siècle. Là encore, un écart est mesuré entre un certain nombre de pratiques religieuses et ce que Dieu dit dans sa parole. Cet écart qui est mesuré, dont les personnes prennent conscience, c'est exactement cette dérive. C'est exactement ce danger auquel l'auteur met en garde ses auditeurs, ses destinataires. Et il leur présente le danger. Il leur dit de peur que vous soyez entraînés à votre perte, de peur que nous soyons entraînés à notre perte. Là aussi, cette expression est également utilisée pour parler d'un navire qui, par manque de surveillance, se met à dériver au large, loin du port, jusqu'à se perdre et à faire naufrage. Cette dérive n'est pas quelque chose de flagrant, mais quelque chose de subtil, qui se passe de manière progressive, petit à petit, jusqu'à finalement être fatal. Et c'est pour ça qu'en même temps qu'il avertit de ce danger, il donne aussi le remède. Quel est le meilleur moyen de ne pas dériver ? Ancrer ma vie en Christ, m'attacher à lui et à sa parole. Et puis l'auteur va donner deux raisons de s'attacher, deux encouragements, j'ai envie de dire, à s'attacher à Christ. Premier encouragement, dans les versets 2 au début du verset 3. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? Parfois, on peut encourager les autres à prendre une décision en les faisant réfléchir aux conséquences désastreuses qui les attendent s'ils ne la prennent pas. Vous savez, c'est le rôle, par exemple, des campagnes de sensibilisation pour la sécurité routière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images à la télé, ils vous montrent les images d'un crash test où il y a une voiture qui rentre dans un mur et le mannequin qui traverse le pare-brise. Quelque part, le message est là, je t'encourage à mettre ta ceinture de sécurité, sinon regarde les conséquences auxquelles tu t'exposes. Je t'encourage à ne pas conduire en envoyant un texto, sinon regarde les conséquences auxquelles tu t'exposes. Et c'est ce que l'auteur dit ici, je veux vous encourager à vous attacher à ce message que vous avez entendu, sinon regardez les conséquences que cela impliquerait si vous ne le faites pas. Et pour parler de ces conséquences, il va procéder à une comparaison qu'on appelle a fortiori. Vous avez sûrement entendu le terme. C'est l'idée que si quelque chose est vrai à un moindre niveau, alors à plus forte raison, c'est vrai à un niveau supérieur. Par exemple, si on dit que des personnes souffrent de la pauvreté en France, à combien plus forte raison c'est le cas dans des pays qui sont sous-développés. Alors voilà l'argument de l'auteur. Si la parole de Dieu qui a été communiquée par des anges, rappelez-vous qu'ils sont inférieurs à Christ, était vraie et que les personnes qui ont désobéi ont été sanctionnées, à plus forte raison, il est inconcevable d'imaginer échapper à un châtiment si nous négligeons ce si grand salut que nous offre le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une différence au niveau de la sanction. Les anges, qui dans l'Ancien Testament étaient associés au don de la loi sur le mont Sinaï, ont parlé, et leur parole a été efficace. Effectivement, quand on parcourt l'Ancien Testament, on voit combien toute désobéissance ou transgression a amené une juste sanction. Rappelez-vous par exemple l'histoire de la femme de Lot. Lot est appelé à quitter Sodome avec tous les justes qui ont été trouvés. Et une mise en garde, ils disent, mais en quittant, ne vous retournez pas. Et la femme de Lot va se retourner et être transformée en statue. Ces sanctions sous l'ancienne alliance, aussi bien que les bénédictions, avaient une portée terrestre et temporaire. Désobéir à ce que Dieu demandait entraînait des conséquences pouvant aller parfois jusqu'à la peine capitale, jusqu'à la mort physique. Mais la nouvelle alliance a une portée céleste et une portée éternelle. C'est une alliance dans laquelle Dieu offre gratuitement un salut éternel. Autrement dit, si ceux qui ont transgressé la loi ont été sanctionnés, quel sera le sort de ceux qui négligent l'Évangile ? Ceux qui négligent cette grâce, qui négligent ce si grand salut qu'offre Jésus-Christ, s'exposent à un châtiment bien plus grand. Et l'auteur de cette lettre va dire un petit peu plus loin, et on peut regarder dans le chapitre 10, faire un saut quelques chapitres plus tard, dans les versets 28 à 29, il dit ceci, c'est exactement la même chose en d'autres termes que ce qu'il est en train de dire ici. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou de trois témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance, grâce auquel il a été déclaré saint, et aura insulté l'Esprit de la grâce. Qu'est-ce qui attend ceux qui négligent Jésus-Christ, qui négligent ce message de la grâce? Une séparation éternelle d'avec Dieu, c'est-à-dire l'enfer, aussi appelé ailleurs dans le Nouveau Testament la seconde mort. Parce que qui d'autre pourrait me sauver si je néglige Jésus, le seul sauveur? Que pourrais-je faire valoir devant Dieu en réponse à mes péchés si je néglige Jésus, celui qui a déjà été sanctionné à ma place? Voilà un premier encouragement, pourquoi il est important d'ancrer sa vie en Jésus-Christ. Si je néglige sa grâce, ce si grand salut qu'il m'offre, je risque de dériver subtilement jusqu'au jour où il sera trop tard et où je ferai face au jugement où Dieu me dira ces paroles glaçantes: « Je ne te connais pas ». Un deuxième encouragement, la fin du verset 3 jusqu'à la fin verset 4. Ce salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit, distribués conformément à sa volonté. Ici, l'auteur encourage par un triple témoignage qui vient confirmer l'urgence de s'ancrer en Jésus-Christ. Premier témoignage, c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu lui-même qui s'est fait homme, qui est venu non seulement pour annoncer cette bonne nouvelle de ce si grand salut, mais aussi pour accomplir tout le nécessaire pour notre salut. Deuxième témoignage, il y a eu des témoins qui ont confirmé ce que Jésus a dit. Ces témoins, ce sont toutes ces personnes, ces disciples qui ont vécu aux côtés de Jésus, qui ont entendu ses enseignements, ce message de l'Évangile. Ils l'ont vu mourir sur cette croix. Ils ont été témoins de sa résurrection. Et il y a quelque chose de fort dans ce terme de témoignage, de témoin. Parce que le terme initial pour ce mot-là, c'est martus, c'est ce mot qui a donné martyr. Ce sont des personnes qui sont mortes, qui ont payé de leur vie à cause de ce message du salut qu'ils étaient en train de confirmer. En réfléchissant à cela, on peut se dire que ce serait quand même fou d'accepter de mourir pour quelque chose qui serait un simple conte, pour une légende ou pour juste quelqu'un qui serait un imposteur. Voilà un argument de poids pour nous encourager à nous attacher à Christ. Christ a lui-même annoncé ce salut. Et les apôtres, les disciples, ont confirmé ce message de la bonne nouvelle. Et comme si ce n'était pas suffisant, l'auteur nous parle d'un troisième témoignage. Dieu le Père lui-même a confirmé la véracité du message de ses témoins en permettant des miracles, des signes, des prodiges et par les dons du Saint-Esprit qu'il a dispensés. Ces miracles que ces apôtres, que ces disciples accomplissaient étaient là non pas pour assurer le spectacle, pour un quelconque show, mais pour attester que ce qu'ils affirmaient était bel et bien vrai, que cela était complètement fondé, complètement sensé. Alors j'aimerais conclure par quelques applications et se poser cette question ensemble. Qui est concerné par cet avertissement? Qui est concerné par ce risque de dérive? Je pense essentiellement à deux catégories de personnes, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, on est tous concernés à un certain niveau. Première catégorie, Je pense à ceux qui rejettent volontairement Jésus-Christ. Je ne pense pas que c'était forcément les premiers destinataires de cette lettre, parce que cette lettre est envoyée à des chrétiens, à d'une église. Mais quelque part, ces personnes sont quand même concernées. Nous avons certainement côtoyé à un moment donné de nos vies des personnes à qui nous avons pu annoncer, partager cette bonne nouvelle de l'Évangile, cette grâce qui est offerte. Mais ces personnes, pour l'instant, rejettent toutes ces choses en bloc. Elles ont été claires avec nous. Elles ne croient pas en Dieu et ne veulent pas y croire. Elles ne veulent pas ou ne veulent plus même en entendre parler. Quelque chose de dramatique, n'est-ce pas? Parce qu'on sait combien nous avons tous besoin de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, et je cite, « Que faut-il faire pour ne pas avoir le salut ?» Rien. Il suffit de ne rien faire, car par nature, nous sommes dans un état de perdition. C'est bien là tout le drame. La condamnation éternelle consiste simplement à rester indifférent à l'égard de la personne de Jésus-Christ. Fin de citation. Pour ces personnes, j'ai juste envie de dire, continuons, continuons de prier. Continuons de demander à Dieu de se révéler. Demandons-lui de leur permettre à ces personnes de saisir qui il est vraiment et ce qu'il a fait pour elles, qui elles sont et combien elles ont besoin de ce sauveur. Deuxième catégorie de personnes, et je pense que c'est essentiellement à cette catégorie de personnes que l'auteur s'adressait. Des personnes qui ont déjà entendu toutes ces vérités à propos de Dieu, à propos de Christ, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Personnes qui ont entendu le message de ce si grand salut qu'il nous offre. Elles ont certainement compris ces choses de manière intellectuelle. Elles savent que tout ça est vrai, que Jésus a bien existé, qu'il était pleinement homme, pleinement Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité à leur place. Ces personnes ont compris qu'elles sont séparées de Dieu à cause de leurs péchés. Elles viennent peut-être même à l'église régulièrement, semaine après semaine, où elles y entendent la parole de Dieu. Peut-être même depuis de nombreuses années. Je crois que ce sont ces personnes à qui ce passage s'adresse ce matin. Ce sont des personnes qui sont très proches du salut. Elles sont là dans le port, mais elles n'ont pas encore jeté l'ancre. Tout ce qu'elles ont entendu se trouve là, quelque part, au niveau de la tête, mais ce n'est pas encore descendu au plus profond de leur cœur. Elles ne se sont pas encore vraiment repenties. Elles n'ont jamais confessé Jésus-Christ comme leur Sauveur et comme leur Seigneur. Elles ne sont pas vraiment prêtes à le suivre, à vivre pour lui, à s'attacher à sa parole et à mettre en pratique ses enseignements. Si vous êtes dans ce cas ce matin, la question à se poser est « qu'est-ce qui m'empêche ? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce pas ? De saisir ce si grand salut que Dieu m'offre ? Quels sont ces courants légers, subtils, qui m'exposent aujourd'hui à ce danger finalement de dériver et de petit à petit m'éloigner de ce port et d'un jour faire naufrage ? Est-ce que c'est la crainte de perdre un certain confort de vie ? Est-ce que c'est la peur d'être rejeté par mes amis ou peut-être ma famille ? Est-ce que c'est l'appréhension de devoir vivre à contre-courant de ce que le monde me propose. Peut-être que c'est juste l'envie de continuer à être le maître, à garder les rênes de ma propre vie, d'en garder le contrôle. Ou peut-être simplement cette impression que j'ai toute la vie devant moi pour prendre une telle décision. Avant cela, je veux profiter. Peut-être que c'est encore l'impression que c'est trop facile, c'est peut-être trop facile, trop simple de penser finalement qu'il suffit de croire et de se repentir pour être sauvé. Il y aurait bien d'autres raisons à évoquer. Mais si c'est le cas, si vous vous reconnaissez ce matin, considérez cet appel urgent à ancrer votre vie en Jésus-Christ. Considérez cet appel urgent à ne pas négliger ce si grand salut que Dieu offre. Parce qu'un jour, c'est certain, il y aura un jugement. Considérez cet appel urgent à saisir ce salut. Parce que si Dieu est venu en personne au travers de Jésus-Christ pour annoncer ce salut, si des témoins ont confirmé ce message au péril de leur vie, et si Dieu lui-même a attesté par des miracles et par le don du Saint-Esprit ce que ces témoins affirmaient est vrai, eh bien, c'est que c'est vraiment vrai. Je vais prier. Seigneur, merci, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Merci parce que, au travers de toute cette description qu'on a déjà survolée dans le chapitre 1 de cette lettre aux Hébreux, on peut juste contempler l'immensité, la grandeur, combien Jésus-Christ est somptueux, quelle est l'immensité de sa grâce, combien tu nous aimes, Seigneur, tout ce que tu as entrepris pour nous, pour venir nous sauver, ne pas nous laisser dans cette galère dans laquelle nous nous trouvons. Seigneur, merci parce que tu désires cette relation avec chacun d'entre nous. Et Seigneur, je fais cette prière que cela puisse encore nous émerveiller ce matin et qu'on puisse entendre cet appel. Et je pense que si cet auteur a pris le temps de faire cette pause dans toute cette exposé de qui est Jésus-Christ pour lancer cet appel urgent, Seigneur, c'est combien ce serait dommage de passer à côté de ce si grand salut que tu nous offres. Seigneur, je te prie de renouveler aussi notre désir, notre zèle de partager aussi cette bonne nouvelle aux personnes qui nous entourent. Parfois, on peut penser à des personnes que l'on côtoie peut-être encore aujourd'hui et qui sont en complète rébellion vis-à-vis de ces choses, qui ont refusé ces choses de manière claire. Mais Seigneur, on sait qu'il est toujours temps. Il y a rien qui n'est impossible à toi et tu peux encore te révéler et toucher le cœur de ces personnes. Ces personnes, on veut te les remettre ce matin encore, Seigneur. Et je veux te remettre aussi peut-être ces personnes qui sont là depuis des années et qui n'ont peut-être pas encore pris cette décision de manière sincère au fond de leur cœur. Seigneur, qu'elles puissent être tout à nouveau émerveillées de qui tu es, de l'immensité de qui tu es, de ce sauveur merveilleux qu'on a chanté, qu'on a encore célébré ce matin. Seigneur, qu'elles puissent être touchées par cela et saisir aussi la réalité de ce jugement qui est à venir, parce qu'il est bien réel et il arrivera un jour, Seigneur. Et qu'elle puisse être touchée et convaincue encore par la véracité de ce message, de ta parole. Oui, Seigneur, que tu viennes à leur secours, à notre secours. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour et merci pour ta patience. Amen.